RMC. 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules, elles sont là, elles sont en place, en direct, sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, avec Bruno Poncet, le cheminot, Charles Consigny.
Et Donald.
Oui, qui danse comme Donald Trump, on le sait, l'avocat.
Il peut danser,
et Barbara Lefebvre, la prof d'histoire géo. Il est temps d'accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Il s'agit de Fergan Azihari. Bonjour.
Bonjour.
Avec ce livre, L'Islam contre la modernité, aux éditions La Cité. C'est un livre grande gueule. Vous êtes issu d'une famille comorienne musulmane, et pourtant, vous osez écrire que la religion qui a été fondée par Mahomet est la principale cause des maux dont souffrent les pays musulmans et les musulmans eux-mêmes. Pourquoi ?
Ce livre part d'un état des lieux qui, je crois, est assez facile à partager. Et d'ailleurs, les musulmans ne m'ont pas attendu pour déplorer l'état lamentable de leur société, bien avant, d'ailleurs, l'expansion coloniale occidentale. Le fait est qu'aujourd'hui, le monde musulman est le terreau de beaucoup trop d'anomalies statistiques. Le monde musulman est composé d'une quantité disproportionnée de régimes tyranniques où la liberté, l'égalité relèvent par définition de la science-fiction la plus totale. Il y a une cinquantaine de pays à majorité musulmane aujourd'hui dans le monde. Le nombre de démocraties en terre d'islam se compte sur les doigts d'une main atrophiée. Sur les 1,9 milliard de gens qui peuplent ce monde musulman aujourd'hui, 3% d'entre eux seulement vivent dans des régimes plus démocratiques que la moyenne mondiale.
C'est à cause de la religion ?
D'entre eux. Je pense que la religion a une bonne part de responsabilité. De même, la quasi-totalité des sociétés musulmanes se situe dans la moitié inférieure de tous les grands classements qui s'intéressent à la condition féminine. L'essentiel des minorités les plus discriminées dans le monde, plus de 60%, vivent en terre d'islam. Les sociétés musulmanes sont surreprésentées dans les conflits armés. L'essentiel, le palmarès des organisations terroristes les plus meurtrières est essentiellement composé d'organisations musulmanes. De même, la contribution du monde musulman n'est absolument pas à la hauteur de son poids démographique. On l'a dit, le monde musulman, c'est un quart de la population mondiale, c'est 1% de prix Nobel, toutes catégories confondues. Quand une ère culturelle et le terreau d'autant de dysfonctionnements, je crois qu'il est nécessaire d'instruire le procès du système de valeurs qui
alors
a produit autant de désastres.
En quoi, selon vous, c'est ce que vous écrivez dans le livre, et vous allez développer, en quoi la religion est vraiment provoque cela, provoque ce tableau noir que vous nous brossez?
Écoutez, quand vous avez une religion comme l'islam qui a bâti à partir du 8e siècle un système juridique fondé sur les paroles, faits, gestes et même silences approbateurs d'un personnage qui s'appelle Mahomet et que les traditions musulmanes elles-mêmes dépeignent comme un personnage qui s'adonne à l'égorgement, l'esclavage sexuel, qui n'hésite pas à assassiner ses opposants politiques, je ne suis pas certain qu'un tel système soit en mesure de faire éclore les sociétés les plus libres, les plus prospères, les plus harmonieuses. Et donc mon vœu le plus cher serait que les musulmans, si vous voulez, méditent ce paradoxe qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans jouissent des libertés les plus étendues, c'est dans les sociétés non musulmanes que la condition des musulmans est la moins désagréable, et je pense qu'il faut aussi en tirer les bonnes conclusions.
La modernité n'est pas compatible avec l'islam, c'est ce que vous écrivez, parce qu'on peut imaginer que dans ces pays, via la modernité, le progrès, les choses ont évolué.
Les choses évoluent, évidemment que le monde musulman n'est pas resté figé pendant 1400 ans. Il y a eu des évolutions, je ne dis pas que ces sociétés sont figées, mais le fait est qu'aujourd'hui, ces sociétés sont très 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 en deçà des standards que nous sommes en droit d'attendre des sociétés modernes et civilisées. Et ceci alors même, je le rappelle, que l'islam est une religion qui est née avec une cuillère d'argent dans la bouche. C'est ça qui est quand même assez consternant. L'islam ne s'est pas emparé d'un désert putride qu'il aurait cultivé à partir de rien. Quand l'islam apparaît au 7e siècle, au beau milieu du Proche-Orient, les musulmans s'empare de l'une des régions les plus foisonnantes, les plus créatives de l'Antiquité tardive. Les musulmans vont s'approprier la Mésopotamie, c'est-à-dire la région qui a inventé l'écriture, la littérature, la sédentarité, l'agriculture. Les musulmans vont s'emparer de la Perse, c'est-à-dire détruire le régime sassanide qui avait accueilli de nombreux éléments païens, chrétiens, nestoriens, particulièrement versés dans les sciences antiques. Les musulmans vont très tôt se familiariser avec la technique chinoise de la fabrication du papier, censée leur conférer un avantage décisif dans la conservation et la diffusion du savoir. Je rappelle que le l'Europe ne s'est pas familiarisée avec cette technologie seulement à partir du 12e siècle seulement. Donc les musulmans ont bénéficié dès le début d'un patrimoine immatériel d'une richesse incroyable, bien plus riche par exemple que celui qui fut à la disposition des fondateurs du judaïsme et du christianisme. Et donc moi ça m'intéresserait de comprendre comment une religion qui partait avec un tel trésor a su a finir dans un état aussi lamentable. C'est cette trajectoire qu'il faut interroger.
Alors, question de ceux qui l'ont lu, c'est-à-dire Bruno Poncet, Barbara Lefebvre et Charles Consigny.
Alors, d'abord, je dois dire, je trouve que c'est un livre courageux, érudit, intelligent, mais surtout courageux, parce que dire les choses avec une telle crudité, bon. Moi, j'ai deux questions, trois questions peut-être. D'abord, ah, ça sera, tu vois, mais rapide, déjà. Non mais rapide.
Ah bon,
rapide. D'abord,
j'ai
quand même.
Peur quand on dit rapide.
Quand même, que vous faites quand même fort peu de cas des musulmans qui se sont sécularisés de fait et vivent de manière tout à fait respectueuse des principes et des valeurs des régimes démocratiques, que ce soit en France ou ailleurs. À vous lire, on a l'impression quand même un petit peu que parce qu'ils seraient musulmans, ils sont pas complètement en phase avec les pays démocratiques et avec les démocraties. Première question. Deuxième question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Qu'est-ce que l'islam devrait accomplir comme démarche? J'ai cru comprendre que vous en appeliez, mais est-ce que c'est crédible à une espèce d'apostasie généralisée? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai oublié ma troisième question, mais bon, ça en fait déjà deux.
Tu vois, on savait que ça allait être trop long. Alors, déjà sur la première, sur les musulmans qui effectivement ont réussi aussi à peut-être se détacher de leur religion, en tout cas à faire en sorte qu'ils sont intégrés, assimilés et qu'il n'y a pas de problème.
Non, mais vous avez raison qu'il faut, sur le fait de dire qu'il ne faut absolument pas mettre tous les musulmans dans le même sac et qu'il y a évidemment beaucoup de musulmans qui sont parvenus à se détacher de leur religion pour embrasser les codes des
sociétés
européennes.
Vous parlez de la religion, hein, vous dites
tout
pas
à fait,
les musulmans,
je parle
vous dites
de l'islam. Mais cependant, sur le plan sociologique, on observe aussi malheureusement que dans les sociétés occidentales, les musulmans en moyenne, je dis bien en moyenne, il ne s'agit pas de les mettre tous dans le même panier, sont les plus perméables à des attitudes autoritaires. C'est aussi le constat sociologique qu'il faut faire. Plus d'un musulman sur deux en France considère que les femmes doivent obéir à leur mari contre 5% de la population totale. Plus d'un musulman sur deux considère en France que les juifs ont trop de pouvoir dans la politique, l'économie et les médias contre un cinquième de la population. Près de deux musulmans sur trois pensent que l'homosexualité est une abomination, une perversion contre 15% des catholiques et 10% des incroyants. Donc je constate que même s'il ne faut pas nier les exemples et les musulmans intégrés qui existent, que malheureusement les musulmans forment la catégorie sociologique la plus perméable à des attitudes autoritaires. Je pense qu'il faut aussi interroger cette anomalie sociologique.
Et ça c'est à cause de leur religion.
Et ça je pense que la religion a évidemment une part de responsabilité. Est-ce que l'apostasie est crédible selon vous? Alors moi je fais un constat très simple quand je prends le cas de l'Iran par exemple. Je prends un exemple assez intéressant. L'Iran, c'est le premier pays qui succombe aux expansions musulmanes historiquement. Et aujourd'hui, quand vous regardez certaines études sociologiques, on constate que les Iraniens affichent des niveaux de désaffiliation religieuse remarquablement élevés au regard des standards de la région. Et moi, je me dis très simplement que si un pays théocratique sanguinaire qui n'hésite pas à assassiner des femmes mal voilées, il existe dans ce pays-là des niveaux de sécularisation très élevés, eh bien, je me dis qu'en Occident, compte tenu des espaces de liberté qui sont les nôtres, nous n'avons aucune excuse, eh bien, et nous devons produire un discours beaucoup plus critique pour tenter d'affranchir les musulmans de leur religion.
Du guide qui a été publié récemment par la mosquée de Paris, du guide, on va dire, du musulman républicain.
Je pense que c'est évidemment de la poudre aux yeux. La mosquée de Paris est présidée, on le rappelle, par quelqu'un qui est incapable de qualifier l'Algérie de dictature, qui est incapable de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Donc il s'agit d'endormir les Européens. Quand vous écoutez certains responsables de la mosquée de Paris, ils vous disent que c'est un guide qui n'est absolument pas, qui ne s'adresse absolument pas aux sociétés musulmanes, qui n'ont absolument rien à se reprocher. Et donc il y a en effet une volonté de repli tactique dans les sociétés où les musulmans sont minoritaires, mais ça ne veut pas dire que la Grande Mosquée de Paris œuvre un islam républicain.
Bruno Poncet, avant Barbara.
Ben moi j'ai bien fait de vous écouter parce qu'au moins vous avez donné un peu de grain à mon moulin. Vous dites faut pas mettre les musulmans dans le même sac, sauf que juste avant vous expliquiez que les terroristes sont musulmans, et dire qu'ils sont islamistes. Vous dites que islam et islamisme c'est la même chose dans votre livre.
Pardon, simplement vous faites pas de distinction entre islam et islamisme, ce qui est pourtant en général c'est ce qu'on fait. On dit attendez, là on parle pas d'islam, on parle des islamistes.
Je n'ai pas dit que tous les terroristes étaient musulmans. Je dis que vous le palmarès des organisations terroristes et les plus meurtrières est essentiellement.
Vous parlez juste musulmans et vous dites pas islamistes. Or, en France,
parce que ces gens-là se réclament de l'islam, c'est un fait.
Oui, mais sauf que
c'est parce comme que les croisés sont réclamés du christianisme.
Mais c'est pas forcément parce que vous êtes musulman.
Les croisés, ils étaient chrétiens.
Bah, je crois.
Hein, voilà, vous avez aucune difficulté à le reconnaître.
Oui, mais en fait,
c'est bizarre ça.
Non, mais c'est vous là. Moi, vous dites qu'on les met pas dans le même sac, mais après vous dites islam et égalité.
Je constate une surreprésentation. Quand vous avez effectivement.
Surtout, c'est de votre livre. Moi, j'ai lu des livres qui ressemblent.
Micro.
C'est le livre de Houellebecq, c'est le livre de Zemmour. En fait, on est dans la même sphère. Mais moi, quand
est-ce
je lis.
Est-ce que vous avez
là,
des arguments?
Non, mais moi, j'en ai un juste vite fait. Allez-y. En fait, là, vous êtes en train de nous expliquer tout à l'heure. Vous dites oui, c'est une religion qui a 1400 ans. Bah, en fait, si vous voulez, vous qui êtes historien. Et,
je ne suis pas historien.
Enfin, j'ai l'impression que vous êtes un peu tout. En fait, il y a 1400 ans, si vous regardez nous, notre religion, il y a 600 ans. Et la société dans laquelle on était il y a 600 ans. Est-ce que la femme avait plus de droits aujourd'hui que dans certains pays musulmans?
Tu lui as donné des arguments.
Bah oui, on est d'accord.
Je parle de ça dans ce.
Donc la religion n'a pas encore fait le travail que d'autres religions ont fait, c'est ce que vous dites.
Alors, premièrement, sur la condition des femmes en terre musulmane, si vous avez lu le livre, vous auriez peut-être vu ces témoignages d'observateurs musulmans qui arrivent en Europe chrétienne et qui sont scandalisés par la libéralité de la condition féminine au regard de leurs standards. Déjà au Moyen-Âge, vous avez des témoignages de musulmans qui observent les femmes des croisés et qui disent qu'est-ce que c'est que ces femmes qui parlent à des hommes qui parlent à des hommes qui ne sont pas leur épouse sans l'autorisation de ces derniers. Donc voyez, c'est-à-dire que les standards en matière de conditions féminines ont toujours été beaucoup plus élevés en terre chrétienne qu'en terre islamique. Ça ne veut pas dire que c'était le paradis du féminisme en terre chrétienne, mais non, au regard des standards islamiques, c'était beaucoup plus élevé, même si je concède que ce n'était pas non plus très compliqué de faire mieux
même,
en la matière.
Nous, ensuite, nous, on tue les femmes
Je ne dis pas que l'islam aurait eu le monopole historique de la violence. Ce n'est pas ce que je dis. Aucune culture ne peut se targuer d'avoir été épargnée par la violence. La violence est constitutive de l'histoire de l'humanité. Simplement, force est de constater que certaines aires culturelles se sont montrées, on va dire, plus douées que d'autres pour embrasser ce que Norbert Elias a appelé le processus de civilisation. C'est-à-dire un processus au cours duquel on apprend à domestiquer nos passions.
Et donc, la question.
Mais dans ce cas-là, répondez à la question suivante. Pourquoi aujourd'hui, les sociétés musulmanes affichent-elles des niveaux de discrimination, de violence, qui sont bien plus élevés que la moyenne mondiale? Ça m'intéresserait d'avoir une explication.
Non, mais quand on parle des sociétés musulmanes, on parle par exemple de l'Iran. On parle de l'Arabie Saoudite.
Je parle de 50 pays musulmans. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3% de musulmans seulement qui vivaient dans des régimes plus démocratiques que la moyenne. Ce chiffre mérite une explication. Si on avait une autre qui est alternative, je prends.
Moi, par exemple, j'ai en tête un pays qui est musulman. Alors, qui est musulman en grande globalité, c'est par exemple le Sénégal. J'ai pas l'impression d'arriver au Sénégal des gens.
Là, ils sont
qui
en train de persécuter les homosexuels.
Cher monsieur,
avec un président polygame.
Quand vous faites une analyse sociologique d'une communauté, quelle qu'elle soit, vous vous intéressez toujours aux grandes régularités et aux grandes anomalies statistiques. Et donc, de la même manière que vous ne prétexterez pas la fortune de Kim Jong-un pour dire que la Corée du Nord est un pays prospère, eh bien, vous n'allez pas prétexter telle ou telle exception pour invalider un tableau d'ensemble qui est quand même assez consternant. Est-ce que oui ou non, le nombre de démocraties en terre d'islam est minoritaire ou majoritaire? Répondez à cette question. Et si le nombre de démocraties en terre d'islam est minoritaire, il faut donner une explication à cette anomalie.
L'anomalie, je pense, elle doit être un petit peu comme aujourd'hui dans d'autres pays sous dictature. En fait, l'anomalie, c'est qu'à partir du moment où vous opprimez votre peuple, peu importe votre régime politique ou régime religieux, vous êtes là-dedans. Par contre, moi, c'est un truc qui m'avait un peu heurté dans votre livre aussi, c'est que vous ne prenez pas en compte l'islam que moi, mes amis, les congénères français vivent, et ce n'est pas un islam qui veut remplacer la République, c'est un islam qui est intégré à la République, et aujourd'hui on se retrouve avec des gens qui sont intégrés à la République, qui n'ont à aucun moment donné envie de remplacer la République, et surtout pas de commettre des actes violents, et au nom de leur religion. Donc je me dis, cet amalgame que vous faites d'un seul coup en les mettant tous dans le même sac, et après vous dites, je ne les mets pas dans le même sac. Bah, en fait, si.
Alors, réponse de Fergan Azihari.
Quand vous avez plus d'un musulman sur deux en France qui considère que les femmes doivent obéir à leur mari contre 5% de la population, pardon.
5%, votre chiffre, il est pas bon.
Plus de 50%, ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres d'Hakim El-Karoui, que je salue parce que je sais qu'il m'aime bien. Donc, vous avez des enquêtes sociologiques qui sont menées en Europe depuis 30 ans, qui vous montrent que les musulmans, malheureusement, moi je le déplore, je ne m'en réjouis pas parce que je viens de là, que les musulmans sont plus sensibles que la moyenne à des préjugés sexistes, autoritaires, xénophobes, antisémites.
Même quand on vit dans des sociétés comme la société française ouverte.
Exactement, mais c'est précisément le drame, effectivement, d'une population qui est malheureusement beaucoup plus sensible que les autres à des valeurs autoritaires. autoritaire et qui ne parvient pas toujours à tirer les bonnes conclusions de sa présence en Occident. Parce que s'il y a autant de musulmans en Occident, c'est bien parce que leur société d'origine n'a pas été capable de leur offrir un niveau de vie décent.
Barbara, et justement, je vous remercie d'avoir souligné aussi la différence entre des sociétés qui, hélas, étaient parties de sociétés avec une grande diversité religieuse et culturelle, le monde musulman à ses origines, pour arriver à cet assèchement religieux, puisqu'aujourd'hui, des minorités juives, il n'y en a quasiment plus dans le monde musulman, à part quelques-unes au Maroc. Et les chrétiens sont largement persécutés dans les pays musulmans. Et ce manque de diversité explique aussi, en partie, peut-être cet assèchement. Mais moi, surtout, je voudrais vous remercier aussi de rappeler l'histoire de l'esclavagisme du monde arabo-musulman, parce que c'est quelque chose qui a saigné l'Afrique et qui a aussi instauré un regard sur l'Afrique subsaharienne de la part des voyageurs arabes. Et puis c'est très bien que vous ayez évoqué les voyageurs arabes du Moyen-Âge qui viennent en Europe et qui constatent les libéralités. J'ai fait de l'histoire africaine et notamment j'ai lu des textes.
Court, hein, il reste
oui, mais
minute, hein.
Les textes des voyageurs arabes, notamment Ibn Khaldoun, mais d'autres, dans le monde d'Afrique subsaharienne, c'est un mépris et un racisme pour les populations africaines et qui ne trouvent leur salut que dans la conversion. Et c'est seulement par la conversion que les Africains noirs ont pu éviter l'esclavagisme. Donc aujourd'hui, comment vous expliquez qu'en France, on ne parle jamais de la part de l'esclavage arabo-musulman dans ce pays, alors qu'on passe notre temps, à juste titre, en tant qu'historienne, à parler de l'esclavagisme occidental?
Je pense qu'il y a une forme de condescendance qui est héritée du mythe rousseauiste du bon sauvage. C'est-à-dire qu'au nom d'une vision abâtardie du mythe du bon sauvage, on en est venu à traiter les musulmans avec une certaine condescendance, en partant du principe qu'il serait vain d'exiger des musulmans les mêmes standards que nous appliquons nous-mêmes. Donc j'y vois une forme de racisme, en réalité, qui est assez répandue. Il faut rappeler, en effet, qu'aucune culture n'a le monopole de l'esclavage. Toutes les cultures l'ont pratiqué. À ceci près que toutes les cultures n'ont pas été capables de critiquer cette institution. Le monde musulman n'a jamais produit de discours abolitionniste avant l'arrivée des Européens. Il n'y a jamais eu, en terre d'islam, l'équivalent de la controverse de Valladolid. Il n'y a jamais eu de Condorcet. Il n'y a jamais eu de Victor Schœlcher. À tel point que le reflux de l'esclavage en terre d'islam doit presque tout aux interventions coloniales occidentales. Ce sont les Français qui ont forcé les Algériens à renoncer au commerce de nègres, tel qu'on l'appelait à l'époque, en 1848. Ce sont les Français qui ont fermé les marchés d'esclaves au Maroc. Ce sont les Britanniques qui sont allés jusqu'à Zanzibar, qui ont fait pression sur l'Empire ottoman pour réduire l'ampleur des traites, et l'Empire ottoman n'a jamais été capable de déclarer l'esclavage illicite jusqu'à sa dissolution. Je constate que là où l'Europe a produit une brillante littérature sur ses propres crimes et ses propres péchés, le monde musulman peine à faire son autocritique. J'ai par exemple, moi, eu énormément de mal à identifier le moindre monument en état d'islam qui commémore l'abolition de l'esclavage, mais il faut dire que lorsque vous révérez un prétendu prophète qui pratique lui-même l'esclavage, c'est quand même compliqué de produire une critique de cette institution.
Fergan Aziari, l'islam contre la modernité, à vous de vous faire une idée, hein, c'est un pamphlet, hein, c'est aussi un livre qui est fait pour faire réagir,
c'est
le cas, et c'est sur ce bien entendu.
Il y a 40 pages de notes, c'est historique.
On peut faire un pamphlet, et
c'est pas un pamphlet,
c'est aux éditions.
C'est gentil, merci.
Merci Fergan Aziari. Dans un instant, on va revenir sur la mort de Quentin, tais-toi Barbara, la mort de Quentin Derenck, puisque désormais il a un nom de famille, on l'appelle Quentin Derenck, parce qu'on l'appelait par son prénom depuis samedi. L'accès à l'Assemblée nationale a été suspendu pour l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. C'est Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui vient de le décider. Oui, parce que Jacques-Élie Favreau était sur place, même si il se défend d'avoir participé
aussi,
à ce lynchage.
Il avait plus le droit de rentrer,
bref,
il rentrait quand même.
On va continuer d'en parler. Merci Barbara. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
1, 2, 3, 4.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, avec Charles Consigny, l'avocat, le cheminot Bruno Poncet, Barbara Lefebvre, la prof d'histoire géo. On va revenir pour terminer l'émission sur la mort de Quentin, Quentin Derenck. On a désormais son nom de famille, 23 ans, lynché par plusieurs individus, comme en témoignent les vidéos qui ont été diffusées, en marge d'une conférence de l'eurodéputé Léphie Rima Hassan à Sciences Po, Lyon. Sur le banc des accusés, les militants de la Jeune Garde qui assuraient justement la sécurité de cette conférence. La Jeune Garde, c'est un mouvement qui doit être dissous. On attend une décision du Conseil d'État. et qui a été fondée par un député LFI, Raphaël Arnaud. Et on apprend d'ailleurs que son collaborateur parlementaire était sur place, Jacques-Élie Favreau. Il s'est mis en retrait et à l'instant, on apprend que Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a suspendu les activités de l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Donc, on va dire que l'étau se resserre sur cet individu qui se défend. Hein. Il a publié un communiqué en disant qu'il n'avait rien à voir avec ce lynchage. Le procureur de Lyon doit tenir un point presse tout à l'heure à 15h. On en saura plus. Quentin travaillait pour le collectif identitaire Némésis, qui avait décidé de manifester contre la venue de Rima Hassan. Alice Cordier, qui est la présidente de ce collectif, est avec nous en direct dans Les Grandes Gueules. Bonjour Alice.
Bonjour et merci beaucoup de me donner la parole.
Quel était le rôle de Quentin précisément ?
Alors, il ne travaillait pas en tant que professionnel de la sécurité, c'était l'ami de plusieurs de nos activistes qui est venu prêter main forte puisque malheureusement, dans le cadre de certaines actions, on est victime de violences, notamment à Lyon, par la Jeune Garde et ce depuis depuis l'existence de notre section, à savoir depuis au moins 3 ans.
Que répondez-vous à ceux qui disent que c'est votre collectif qui a finalement provoqué aussi ce déchaînement de violence en allant sur place, en essayant d'empêcher la conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon?
D'abord, on n'a pas empêché la conférence de Rima Hassan. Nous étions 7 activistes sur le trottoir en face de Sciences Po. C'est pas du tout une volonté d'empêcher qui que ce soit. La seconde chose, c'est que ce retournement accusatoire, c'est exactement le même que quand une femme se fait agresser, elle avait une jupe trop courte. Voilà. Non, le problème, ce sont les harceleurs, ce sont les agresseurs. Et là, en l'occurrence, ce sont les militants de la Jeune Garde en partie, et l'enquête montrera s'il y avait d'autres groupes présents de militants d'extrême gauche, qui ont agressé nos militantes. Je rappelle qu'une de nos militantes a été étranglée et qu'elle a aujourd'hui 12 jours d'ITT, pendant que d'autres militants de la Jeune Garde étaient en train de lyncher, de tabasser au sol, comme l'ont montré d'ailleurs les différentes vidéos de témoins, nos jeunes hommes qui étaient là simplement pour nous protéger et justement le fait qu'on ait pris cette petite équipe de protection bénévole montre bien qu'il y a un réel problème parce que c'est toujours aux abords.
Vous dites que ce sont des militants de la Jeune Garde qui ont lynché Quentin. Vous en êtes sûr que vous étiez sur place? Pourquoi vous affirmez cela?
Absolument toutes les jeunes femmes présentes lors de cette action et absolument tous les jeunes garçons qui faisaient notre protection ont reconnu de façon ferme Jacques-Élie Favreau, le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud. Il est bien connu pour être leader de la Jeune Garde, notamment à Lyon, bien connu pour des faits d'exaction et de violence déjà par le passé. Et de toute façon, l'enquête le montrera. La réaction de la France Insoumise, de toute façon, est un aveu. Ils sont extrêmement mal à l'aise par rapport à cette situation. Éric Coquerel, par exemple, a expliqué qu'en effet, il y avait bien des militants venus assurer la protection de Rima Hassan. Rima Hassan explique qu'il n'y avait pas de militants. Raphaël Arnaud explique, lui, qu'il n'était pas là. Jacques-Élie Favreau explique, contrairement à ce qui a été dit, il ne dit pas qu'il n'était pas présent et qu'il n'a rien à voir avec ce lynchage. Il dit qu'il n'est pas responsable de la mort de Quentin. Sauf que Mediapart a montré qu'il était bien présent sur les lieux au moment du lynchage.
Et il participe au lynchage ?
Ça, c'est l'enquête qui nous le dira.
Parce qu'ils sont combien, en fait, alors sur les vidéos, on essaie d'identifier le nom, mais ils sont combien à s'acharner sur Quentin ?
Ce que je peux vous dire, c'est que nous avions 15 jeunes hommes pour assurer notre protection et qu'en face, il y avait 30 antifa avec des gants renforcés au niveau des phalanges, on appelle ça des gants coquets, qui les ont attaqués de façon totalement gratuite, puisque les garçons ne faisaient que notre protection aux abords de Sciences Po.
Pourquoi s'est-il retrouvé tout seul, finalement, pris au piège ?
Bien simplement parce que les garçons se sont retrouvés en sous-effectif, à 15 contre 30, avec des jeunes... des gens en face d'eux, des chiens fous, hein, galvanisés par Jean-Luc Mélenchon,
Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon a eu des propos envers la Jeune Garde extrêmement conciliants, expliquant que c'était des militants proches de la France Insoumise, et Jean-Luc Mélenchon soutient la Jeune Garde, notamment depuis les décrets de dissolution. Donc je suis désolée, quand la Jeune Garde, je rappelle, a été dissoute pour des faits de violence, pour avoir tabassé un jeune homme juif dans le métro, pour avoir été auteur de violences en Réunion. Raphaël Arnaud est auteur de violences en Réunion, aujourd'hui il est député. En fait, le message que renvoie Jean-Luc
Raphaël Arnaud a été condamné, oui.
C'est pour ça que pour moi, la France insoumise, et notamment Jean-Luc Mélenchon, a une responsabilité. C'est qu'en fait, le message renvoyé quand on prend un député et un candidat qui vient député anciennement de la Jeune Garde, c'est devenez militant Antifa, frappez des gens dans la rue et vous deviendrez député, vous serez récompensé. Donc non, je pense que moi, la France insoumise a une responsabilité énorme là-dedans.
Vous avez entendu l'assistant parlementaire, donc la personne en question, on citait son nom, Jacques-Élie Favreau, n'a plus le droit d'aller à l'Assemblée nationale. L'accès est interdit, c'est ce qu'a décidé Madame Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée.
Bien sûr, mais en fait, moi, je regrette tellement que ça n'ait pas été le cas avant. Ce sont des personnes dont on sait qu'ils sont violents, qu'ils sont dangereux. Et moi, j'aimerais aujourd'hui qu'il y ait la même chose mise en place pour Raphaël Arnaud, qui d'ailleurs m'a menacé accessoirement d'une balle dans la tête. Hein. Mais visiblement, ça n'était pas suffisant pour...
Est-ce que vous croyez qu'il est protégé par son immunité parlementaire, en quelque sorte ?
Il est protégé par son immunité parlementaire. Il est surtout protégé par la France insoumise depuis le début, qui sont... très conciliant avec la violence de l'extrême gauche et c'est complètement prôné. Hier, Jean-Luc Mélenchon a eu des propos extrêmement violents où il expliquait que les collectifs comme Némésis, que je dirige, les collectifs comme Nous Vivrons...
Vous êtes un collectif violent, vous-même, vous participez parce que au départ, d'ailleurs, on s'est dit c'est une rixe, c'est-à-dire que c'est les identitaires contre les antifas. Malheureusement, c'est pas la première fois qu'on vous voit vous affronter, même
alors,
physiquement.
C'est pas un affrontement. Nous, je vous mets au défi de trouver la moindre scène où vous verrez des militantes de Némésis attaquer qui que ce soit. Notre protection, les garçons qui viennent nous protéger sont là, comme je dis, pour nous protéger, pour attaquer absolument personne.
Mais est-ce que ça aurait pas été, au fond,
qu'il y ait d'autres groupes violents à l'extrême droite, ça c'est possible, mais ce n'est pas le cas de notre association.
Non, mais par exemple, les fémènes qui se revendiquent du féminisme, elles interviennent sans garde du corps, parfois même.
Elles viennent interrompre des messes dans des églises. Je pense que c'est pas là qu'elles risquent le plus de se faire tabasser.
Oui, on se demande. Moi, j'ai pas de réponse à la question. Hein, mais est-ce que c'est pas presque pire finalement de venir avec 15 jeunes hommes? Que de venir seul, par exemple. Est-ce que vous pensez, mais vraiment, il n'y a pas de sous-entendu du tout dans ma question, est-ce que vous pensez que si vous étiez venu seul, que des jeunes femmes, vous auriez risqué quelque chose ?
Eh bien, peut-être que si on était venu seul, ce serait une de mes militantes qui serait morte aujourd'hui.
D'autant voilà, qu'Alice Cordier, excusez-moi, mais je crois que avant même je sais qu'il y a une de vos militantes qui a été blessée, mais avant aussi, j'avais vu une vidéo où une de vos militantes, il n'y avait pas justement de gens pour vous accompagner, vous étiez seule, je ne sais plus où c'était exactement, une de vos militantes a été prise littéralement et fracassée par terre. Oui, donc quand vous venez, c'est comme pour le collectif Nous Vivrons, quand les femmes viennent manifester seules, elles sont agressées par justement les grands progressistes féministes. Donc vous n'avez pas d'autre choix que d'être protégées finalement.
C'est ça, et nous n'avons pas d'autre choix que d'être protégées. Et pour autant, on pourrait nous dire, arrêtez votre combat, arrêtez d'aller vous jeter dans la gueule du loup. Et j'entends cette critique aussi, hein, je la comprends, mais en fait la vérité c'est que nous on a un collectif de victimes, on représente des femmes, et il y aura d'autres victimes par la suite. De violences faites aux femmes, de violences par des hommes et des violences que l'on dénonce au quotidien. Donc nous, notre cause, elle est supérieure aussi à tout ça. C'est pour ça que nous, on ne veut pas renoncer à cela. Et également, on est victime de violences par l'extrême gauche depuis des années. On veut le dénoncer. On veut absolument que les gens le sachent. Et maintenant, les gens le voient. Mais en fait, il a fallu qu'il y ait un mort pour ça. Et moi, c'est ça.
Bruno Poncet.
Excusez-moi, mais dans votre communication après ce tragique... accident ou incident, je sais pas comment on peut dire ça, mais vous avez communiqué en disant qu'il y avait d'autres groupes d'extrême gauche qui auraient participé au lynchage du jeune Quentin, et vous avez ciblé des organisations qui derrière ont été agressées et derrière leur local a été fracturé, voire même un début d'incendie. Alors je pense que il faudra faire que la justice fasse son travail pour la mort de Quentin, mais je pense pas que vous, dans votre rôle, c'était de fait de cibler d'autres organisations pour qu'elles soient après attaquées. Si c'est ça que vous voulez à chaque fois, c'est du dent, œil pour œil, dent pour dent, faudra arrêter après de vous dire que vous êtes pas non-violent. Vous êtes non-violent parce qu'en fait, vous cherchez aussi la violence pour après en mettre en exergue d'autres associations qui, elles, se font agresser derrière par des gens dont c'est de ça demande la mouvance d'extrême droite.
Alors toutes les associations. Non, en fait, vous, si demain je me fais violer, il ne faut pas que j'énonce mon agresseur.
C'est ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que quand vous dénoncez Solidaire 69, excusez-moi, mais jusqu'à preuve du contraire, vous avez peut-être des preuves pour la Jeune Garde. Il faudra voir. Mais pour Solidaire 69, j'attends de voir vos preuves. Et après Solidaire 69, dans la nuit samedi dimanche, je me fais agresser.
Laisse ça répondre à l'histoire.
Ah ouais, mais il ne faut pas qu'elle me traite que non plus de dire que moi je vais laisser faire un viol.
Alors est-ce que vous avez des preuves de la présence de ce groupuscule ? Pardon, alors de ce mouvement.
Malheureusement, nous avons énormément de militantes qui ont déjà été victimes que ça déplaise ou pas à monsieur, ça m'est égal, d'associations comme la CGT ou comme Solidaires ou comme la Ligue des droits de l'homme. Il y a des personnes de Solidaires qui ont été reconnues dans les personnes qui ont agressé nos militantes. Il n'y a rien et absolument rien, et sûrement pas vous, monsieur, qui m'empêcherait de le dénoncer. Et d'ailleurs, au tout début, vous avez eu la même
réaction. La loi, on verra avec la loi. On verra si c'est
vous avez eu la même réaction que tous les médias d'extrême gauche qui essayent de couvrir leurs amis. Quand on a dénoncé la Jeune Garde, au début, on nous a dit oui, le dites pas trop, on ne sait pas, etc. Nous, on le sait. Maintenant, tout le monde va bien que c'est la Jeune Garde, donc on verra pour les.
Bah,
les
personne ne le voit pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore vu le procureur le dire.
Laurent Nunez a.
Si Laurent Nunez te dit que c'est la Jeune Garde, c'est qu'à mon avis, il a suffisamment d'informations.
Mais par contre, c'est facile de cibler des gens pour qu'après, ils soient agressés.
Est-ce que Alice Cordier, vous qui êtes beaucoup sur le terrain, puisque vous faites beaucoup ce genre de manifestations.
Dernière question,
est-ce que vous sentez l'augmentation de cette violence politique qui est en train de monter et est-ce que vous pressentez qu'après les municipales, en montant en puissance avec l'élection présidentielle, on risque d'avoir des confrontations de plus en plus violentes?
Oui, je pense que ça avait commencé dès le début d'année avec Charlie Kirk aux États-Unis. Tout le monde nous disait que ça n'arriverait pas en France. Au final, on se rend compte que si. On peut tuer des gens de droite par des gens d'extrême gauche en France.
Et on tue des gens d'extrême gauche par des gens d'extrême droite. Hein, Clément Méric.
Mais Clément Méric, il a été tué en 2026. Bah, mais qu'est-ce que tu
veux? Bah, voilà, pas, c'est comme ça.
Il va nous reparler du FN des années 70.
Ouais, mais en fait, c'est quand même aussi.
Bon, merci Alice. Merci Alice Cordier. Merci d'avoir été en direct avec nous.
C'est pas ça, c'est que tu parles d'un truc qui n'a rien à voir avec l'actualité.
Dans un instant, je voudrais que. Parce que j'ai entendu Alice Cordier pointer du doigt la responsabilité des LFI. Alors, est-ce qu'il y a une responsabilité des LFI, de la France Insoumise? On continue d'en parler avec vous. 32-16. Venez discuter avec les grandes gueules, Charles Consigny, Bruno Poncet, Barbara Lefebvre, à tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec la mort de ce jeune de 23 ans, Quentin, qui est décédé après avoir été lynché par des militants de l'ultra-gauche, peut-être de la Jeune Garde. C'est en tout cas ce que l'enquête semble indiquer. Et Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a lui-même parlé de la Jeune Garde. La Jeune Garde, c'est ce mouvement d'extrême-gauche, dirigé par Raphaël Arnaud, député LFI, et qui assurait ce jour-là le service de sécurité de Rima Hassan. Nous sommes avec Rod. Rod, il nous appelle de Lyon. Bonjour, Rod.
Oui, bonjour.
Vous vouliez intervenir parce que vous connaissez bien la Jeune Garde.
Alors moi, je la connais bien, malheureusement, oui, à mes dépens. C'est qu'en fait, un soir, en rentrant du stade, je suis abonné à l'Olympique Lyonnais, donc en rentrant du stade, j'avais une petite écharpe qu'on appelle une satin. Donc c'est une petite écharpe fine qu'on a autour du cou quand on appartient à un groupe en fait, de supporters. Et vous savez, à Lyon, on a la réputation d'être un stade de plutôt à droite, identifié très à droite, même pour certains groupes. On l'a encore vu hier, du coup, on a mis un message pour la mort de Quentin.
Oui, il y avait un message dans le stade hier.
Tout à fait, voilà. Et donc, du coup, en rentrant chez moi, j'ai toujours ma satin autour du cou quand je rentre chez moi. Évidemment, j'habite à Lyon, j'ai aucune raison de m'en faire. Et là, j'ai été encerclé par un groupe de personnes qui m'ont regardé comme ça, qui m'ont un peu suivi. Et j'étais encerclé, donc il y avait une fille qui a commencé à être très agressive en me demandant envers moi et en me demandant « T'es un faf, toi ?» Qu'est-ce que tu fais là? T'es un faf, toi? Je peux tomber des nues. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? T'es un faf, qu'est-ce qu'il y a? Je rentre chez moi, il est 1h du matin, je sors du stade. Et en fait, j'ai compris qu'avec cette écharpe, pour eux, quand on est supporter de Lyon, on est forcément à droite.
Et comment saviez-vous que c'était la Jeune Garde?
Alors, moi, c'est qu'après, moi, j'ai regardé, je me suis renseigné, etc. La personne, la fille en question, je sais exactement qui c'est. Elle est très connue à Lyon, etc., de la Jeune Garde. Et puis en fait, dans ce quartier, je suis passé devant un espèce de bar où maintenant il y a un espèce de rassemblement qui a lieu parce que il est juste en bas de chez moi. Donc maintenant, je les vois très 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 souvent. Et en fait, maintenant, c'est tout tagué avec des flèches. Vous savez, des flèches vers le bas, qui est le symbole de la Jeune Garde. Enfin, maintenant qu'ils ont été dissous, c'est éteint en la flamme. Donc voilà. Maintenant, à mes dépens, je me suis renseigné un peu sur eux pour aussi me protéger en fait, parce que en fait, dans ce quartier-là, en fait, ils sont toute impunité. Ils chassent. Ils cherchent des fois du chat. Peut-être qu'ils s'ennuient. Et en fait, tout simplement, ils vont déambuler dans la rue, interroger des gens.
Ah, ça rappelle quelque chose, historiquement. Voilà, des gens qui se baladent dans les rues, miliciens, pour taper les opposants, ça me rappelle.
À Lyon, il y a cette ambiance, à Lyon?
Mais dans le quartier, dans le 7e arrondissement, moi j'habite à 100 mètres de là où Quentin a été tué. À 100 mètres.
C'est là où ça s'est passé, hein, il y a Sciences Po, à Lyon.
Je suis dans la rue Chevreul. Donc en fait, je suis dans la rue de l'université, de tout ce quartier-là. Donc en fait, ce quartier-là, aujourd'hui, vous les voyez, les gens. Moi, j'ai aussi un chien, je me balade dans la rue. Je suis très observateur, je regarde tout le temps tout, je suis tout le temps un peu en alerte, vous savez, c'est pas. C'est désagréable. Hein. D'ailleurs, moi, je vais me casser. Hein. Je reste pas dans cette ville. Hein. J'ai envie de fonder une famille. Moi, je me tire. Hein. Je reste pas là-dedans. C'est insupportable. Et vous le sentez, en fait. Il y a sans arrêt des choses comme ça. On n'est pas tranquille. Et même, c'est un climat qui est détestable. Et on les voit, eux, de toute façon, s'ils font ça, s'ils mettent ce climat, c'est parce qu'aussi, une impunité totale. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand vous vous faites interroger comme ça, vous allez appeler la police. La police, elle va vous dire quoi? Mais rentrez chez vous, monsieur. Et puis, c'est tout, c'est fini. Et en fait, voilà.
Donc, ce que vous expliquez, c'est qu'ils ont une pratique qui est tout à fait une pratique classique des milices politiques, hein, de prendre la rue et d'intimider, notamment dans la circulation, dans les rues.
Exactement.
Bon, c'est des pratiques de miliciens, on est d'accord.
Moi, je l'ai pris comme ça, en fait.
Voilà.
Je l'ai pris comme ça, en fait. C'est, voilà.
Merci Rod pour ce témoignage depuis Lyon. Merci d'avoir appelé. Nous sommes avec Olivier du côté de Lyon à Valery. Bonjour Olivier. Lyon, le plus
beau département de France. Bonjour Monsieur Truchot. Bonjour les grandes gueules.
Bonjour Olivier.
Alors, je vous appelle aujourd'hui parce qu'en fait, alors le débat, je le trouve très intéressant. D'ailleurs, j'ai salué Monsieur Poncet. Je suis rarement, voire jamais d'accord avec lui, mais je pense que tout ce qu'il dit, en fait, c'est super utile pour le débat. Donc merci à lui.
Comme Barbara,
moi,
merci.
Moi, je suis catastrophé. Vraiment, je suis catastrophé parce que malheureusement, c'est normal et ça continuera en fait, cette violence. Je m'explique. En fait, on a habitué la jeunesse avec le barrage républicain. En fait, on les a habitués à se boucher le nez et malheureusement, jamais à débattre sur le fond. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, oui, on vous entend.
Si, on vous écoute.
Ah, d'accord. Je vous présente mes excuses. Ouais. C'est ma première intervention. Donc
non, allez-y.
D'accord. On les a habitués, en fait, à ne jamais débattre. On les a habitués, en fait, c'était plus de 20 ans, et les élections présidentielles de 2002, où on leur dit que la droite, l'extrême droite, c'est le nazisme. On leur fait croire que c'est un danger pour le droit des minorités, alors que pas vraiment, pas spécialement. En fait, voilà, ce que je trouve dommage, c'est qu'on se bouche le nez plutôt que de débattre du fond. Avec l'assassinat de Charlie Kirk, ça a été très bien repris par Madame Cordier. En fait, on a déshumanisé les gens de droite.
Exactement.
On a complètement oublié, en fait, le débat politique, la diversité des opinions. Moi, j'en veux à cette jeunesse.
Mais est-ce que ça marche pas dans les deux sens?
Mais cher Olivier,
aujourd'hui, notamment à cause aussi des réseaux sociaux qui amplifient tout ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus effectivement dans le débat, mais on est dans la haine, dans la violence et dans la mort.
Oui, mais Olivier a raison. Il y a le fait de désigner ton adversaire politique comme un ennemi que tu vas déshumaniser, ça autorise ensuite toutes les violences, puisque de toute façon, tu ne peux pas discuter avec lui. C'est un ennemi à abattre. Il est un danger pour la République.
C'est pas d'autre côté.
Et moi, je suis navré.
Quand tu traites de l'autre islamo-gauchiste ou de gauchiste tout court, après, c'est fini, le débat est
clos. Là, LFI.
T'as pas de discussion.
Là, LFI, tu peux encore discuter avec certaines personnes de la LFI. Moi, je pense que M. Coquerel, sur un plateau, tu peux encore discuter avec lui. M. Bompard, tu peux discuter. Mais je pense que tu ne peux pas discuter avec Mme Obono, M. Porte ou Mme Rima Hassan, qui, après le 7 octobre, vient de t'expliquer qu'il faut, en France, faire l'intifada et qu'il faut considérer que le Hamas est un mouvement de résistance. Ces gens-là, ils ont passé une limite qui fait que je ne peux pas débattre avec eux. Par contre, Coquerel, Bompard, on peut. Or, Coquerel et Bompard, c'est des gens qui vont te dire on peut discuter avec personne du Rassemblement National parce que c'est l'ennemi nazi. Eh bien, je pense qu'il a raison. C'est ça qui conduit à la violence.
Manuel Bompard, qui sera d'ailleurs face au GG demain, le député LFI. Merci Olivier. Je voudrais qu'on laisse la parole à Farouk, qui avait appelé tout à l'heure. On n'a pas pu le prendre. Farouk, bonjour. Il nous appelle
bonjour,
de Montreuil,
Olivier.
En Seine-Saint-Denis.
Bonjour,
il
ne
vous reste plus qu'une minute pour nous dire ce que vous pensez de cette affaire.
Déjà, une pensée quand même pour les parents et pour la personne qui est décédée. Moi, je trouve ça assez triste qu'on puisse mourir comme ça dans la rue. Alors, je ne sais pas si la manifestation a été autorisée ou pas, mais en tout cas, ce que je vois depuis ce week-end, c'est que tout le monde s'improvise juge, alors que les enquêteurs sont au travail. Et deuxièmement, aujourd'hui, la responsabilité, c'est le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, parce que cette bordélisation, c'est le gouvernement. Aujourd'hui, il n'est pas normal qu'on ne se sente pas en sécurité dans nos rues. En ce qui concerne la France Insoumise, je trouve ça quand même assez ignoble qu'on puisse faire de la récupération en accusant la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, comme si c'était des gens qui n'étaient pas républicains et qui seraient responsables de cette violence dans laquelle nous vivons dans le pays.
En même temps, il y a un lien dans le sens où si c'est les militants de la Jeune Garde qui ont tué Quentin, cette Jeune Garde assurait le service d'ordre de Rima Hassan,
député LFI.
Et Raphaël Arnaud est député LFI. Il y a un lien. Ça ne veut pas dire que Jean-Luc Mélenchon... Ça veut pas dire Jean-Luc Mélenchon cautionne, hein, bien sûr. Je dis pas ça. D'ailleurs, il a dénoncé.
Non, mais parce que ça fait comme depuis quelques années, on accuse comme la France insoumise d'une certaine violence.
Verbale, en tout cas.
Même de l'antisémitisme. Je veux dire, on accuse comme la France insoumise de l'antisémitisme. Oui, alors que c'est comme des choses assez graves.
Oui, oui, ben, la justice l'a reconnu. D'ailleurs, elle a relaxé Raphaël
Hernandez. Il n'y a eu aucun élu qui a été accusé d'antisémitisme ou qui a été jugé. Donc ça, il faut faire quand même attention.
Vous avez raison, Farouk. Il faut faire attention dans les accusations que l'on porte.
On peut dire que
on verra. En tout cas, ce que dit le procureur cet après-midi à 15h, puisqu'il nous doit nous donner des informations. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'interpellation dans cette affaire, même si hier, Laurent Nunez expliquait qu'il y avait quand même pas mal d'éléments significatifs, des témoignages, il y a les vidéos. Donc on devrait quand même assez rapidement mettre la main sur ceux qui ont fait ça. Merci Farouk, merci à tous d'avoir appelé au 32-16. Manuel Bompard, donc demain face au GG, on reviendra bien sûr sur ce qui s'est passé à Lyon. Il est temps maintenant d'accueillir Estelle Denis, bien sûr Estelle Midi, qui continue à partir de midi le débat. Voilà, bonjour Estelle.
Salut Olivier, salut les GG. Évidemment, on va nous aussi évoquer la mort de Quentin à Lyon dans Estelle Midi. Nos politiques ont-ils une responsabilité? C'est la question qu'on va vous poser dans un instant et vous pouvez bien sûr réagir au 32-16. On parlera de cette proposition de loi d'Olivia Grégoire, des cours d'éducation alimentaire à l'école. Bonne ou mauvaise idée? Mais qu'est-ce qu'il y a, Barbara? Les chiffres de l'obésité infantile explosent.
Donc, les papas, les parents? Ah non, les parents non.
Oui, alors, c'est mais donc là, ils savent écrire, rien faire. Lire, compter et manger.
Et apprendre à manger.
D'accord.
Suspendre le permis de conduire en cas de téléphone au volant. C'est ce qui se passe désormais dans le Pas-de-Calais. Suspension de 2 mois de permis. Pour ou contre, là encore, on en débat avec vous au 32-16. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu ce top 50 des produits les plus plébiscités par les Français. Produits alimentaires. Ah bon? En premier, vous avez les bouteilles d'eau cristalline.
Chips.
En deuxième, vous avez le Ricard. C'est les produits les plus achetés
et
en fait.
En troisième,
le Coca. Vous avez 8 marques d'alcool dans les 20 produits les plus consommés par les Français.
Ben justement.
C'est ça la France.
Est-ce que ce classement.
C'est un sondage breton ou non?
Non, vous savez quel est le premier produit solide dans ce classement? Le plus acheté des Français. C'est-à-dire que c'est même pas
ce qu'on aime.
C'est
le pire.
C'est le Nutella. Le pot de 1 kg. Le pot de 1 kg.
Ricard, Nutella, Coca, tout ce qu'on aime.
Donc ça, ce sera à 14h. Est-ce que ce classement, il est anecdotique ou dramatique? Et puis tu préfères le canapé d'angle ou le canapé droit?
Canapé d'angle.
Oh, pas du tout.
Canapé d'angle quand t'as de la place pour pouvoir mettre tes jambes, mais quand t'as pas de place.
Mais en fait, ça te fait moins de place parce que la personne qui est dans l'angle, elle prend 3 places en fait.
C'est vrai. Mais ça te fait pour mettre tes jambes.
Ça dépend ce que tu fais sur le canapé.
Voilà. Quand t'as passé 50 ans, Estelle, mettre tes jambes allongées, t'es content.
J'y suis dans moins d'un an, Barbara.
Mais toi, t'es un vieux déjà.
Mais non, vaut mieux 2 canapés qu'un canapé d'angle.
Allez, c'est terminé. Rendez-vous avec Estelle à midi, à demain.
Et canapé.